9h dans le bureau de Par Jupiter.
Oh, c'est triste.
Ah ouais, c'est vraiment triste. Hein.
Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?
Jupiter, là, ça n'a plus aucune saveur sans Jean-Michel Blanquer.
Mais c'est pas encore fait, hein. Il peut peut-être rester au gouvernement.
Ah bon ?
Tu crois ?
Lol ! Mais non ! Non, mais vous inquiétez pas, Macron lui a trouvé un petit coin de paradis rien que pour lui.
Ah, Ibiza ?
Plus calme.
Tenerife ?
Non plus, non. Montargis, ça fait rêver, non ?
Ah, alors... pourquoi pas Vesoul tant qu'on y est ?
Il y a une chanson de Brel sur Montargis, je crois pas, non ?
Enfin, alors peut-être qu'il a des origines de là-bas ?
Il est né dans le 8e.
Dans le 8e arrondissement de Montargis ?
Non, de Paris.
Ah ouais, parce qu'il y a peut-être pas 8 arrondissements à Montargis. Hein.
Mais c'est peut-être pas pour lui que c'est le pire.
Ah, ça c'est sûr, le plus dur, c'est pour les habitants de Montargis.
Non, je pensais à Anna Cabana.
Ah oui, la pauvre.
Elle a épousé un ministre de l'éducation nationale, ah ouais. Et là elle va devoir vivre avec un élu de la 4e circonscription du Loiret. Ouais.
Oh là là. Au mieux. Ouais, ouais. Mais ça va être une renaissance.
Ah ouais, pour elle, le nom du parti prend tout son sens. Hein.
Non, mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être l'aider à trouver des occupations là-bas ?
Ah ouais, faut qu'on lui trouve une boîte de nuit.
Allez, cherche.
Ouais, alors, regarde la plus proche, c'est le News à Saint-Loup-des-Vignes.
Ah bah ça va lui changer du pacha.
Ah ouais.
Ça va être une drôle d'ambiance.
Salut les loulous, vous êtes au News et la nuit ne fait que commencer. Ce soir au platine, pour le plaisir des oreilles, mais aussi des yeux, c'est DJ Jean-Mich Mich, champion du Val-de-Loire de bodybuilding 93, c'est la folie.
Là, mais oui, fini la réforme du lycée, les protocoles sanitaires, fini le sport à l'école.
Ah, il va nous manquer, mais je pense que on va lui manquer aussi. Hein.
Ouais. Allez, au boulot.
Salut les pitchouns, ce soir à 17h dans ton transistor, c'est Par Jupiclass, avec DJ Vanou aux manettes, allez où les jeunesse.
France Inter et bienvenue à la sous-préfecture de la rigolade, dont voici la citation du jour. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Montargis. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Vous avez fait un choix.
Dans la joie, mais dans la joie.
Mais oui, un choix très audacieux, assurément controversé aussi, un livre de Maurice Sachs intitulé « Le sabbat, souvenir d'une jeunesse orageuse ».
S'il a eu une jeunesse agitée, je lui promets une vieillesse paisible pendant 20 ans en centrale.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Encore un reportage d'utilité publique, j'imagine.
Bien sûr, sujet léger. Je vais vous parler de droit à l'avortement aujourd'hui, puisqu'il est mis à mal aux États-Unis. Et alors, qu'en est-il en France ? Je suis allé voir les gens.
Les vieux, faut les tuer à la naissance.
Voilà, les gens modérés. Ça a du sens.
La Jupi Masterclass de cinéma vous est proposée aujourd'hui par la comédienne et réalisatrice Judith Davis. Bonjour Judith.
Bonjour.
Vous avez choisi de partager avec nos auditeurs un western, Pat Garrett et Billy the Kid, réalisé par Sam Peckinpah.
John Ford disait : le western est au cinéma ce que les évangiles sont à l'humanité. L'origine et la fin de toute chose.
À mes côtés aujourd'hui, oui, Alex Vizorek.
Il est là et je vous présente le reste de cette belle équipe. D'abord, celle qui explique mieux qu'on ne comprend, c'est Isabelle Sorrente. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour les amis.
On m'a dit que vous alliez traiter d'un génie littéraire américain.
Absolument.
De qui allez-vous parler ?
Je vous dirai ça.
Oh là là ! Restez Juliette, là vous allez prendre une claque. Ensuite, celle qui écrit des chansons pour enfants pédophiles. C'est vous qui aiderez, bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on va chanter ?
Eh bien apparemment les grands esprits se rencontrent car je vais également parler aux enfants des gens qui veulent obliger d'autres gens à avoir des enfants.
Et par grand esprit, vous... Ça m'est pas venu.
Les petits aussi apparemment.
Suite. Et enfin, celle qui nous parle du français, comme un caviste nous parlerait du Saint-Émilion. C'est un peu surfait mais ça reste une valeur sûre en bouche. Laëlle Gavéron, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler alors ?
On va parler de préfixes et de politique.
Mais bien entendu, ajoutez à cela un journal qui jamais ne ment, des exercices abondamment et un dessin au thème dément et vous obtenez l'émission qui attend son gouvernement.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Non, Par Jupiclass, au boulot.
Au boulot avec Judith Davis aujourd'hui. Judith, vous faites partie du collectif de théâtre L'Avantage du Doute. Nous vous avions reçu à l'occasion de la sortie d'ailleurs de votre film avec ce collectif, Tout ce qui me reste de la Révolution, film qui est entré au Panthéon des sons de Par Jupiter.
C'est vrai.
Ça fait partie des films qui nous ont marqués, qu'on a adorés et dont on diffuse des sons très régulièrement. Vous jouez en ce moment d'ailleurs au Théâtre de la Bastille jusqu'au 27 mai. une pièce intitulée « Encore plus partout, tout le temps ». C'est la dernière création de ce collectif, donc l'Avantage du doute, avec Mélanie Bestel, Claire Dumas, Nadir Legrand et Maxence Tual. On vous retrouve sur le terrain de l'écologie, c'est ça ? Mais abordé de quelle manière alors ?
Alors ce qui est super, c'est qu'il y a deux thèmes dans ce spectacle, c'est la domination de la Terre et la domination des femmes. On a passé 3 ans à essayer de convaincre les hommes du collectif qu'il y avait bien 2 thèmes dans ce spectacle. Je suis ravie que vous n'en ayez pas oublié, hein, Charline. Comment on l'aborde ? On l'aborde déjà parce qu'il y a un point de rencontre entre la domination de la Terre et la domination des femmes. Lequel ? Venez voir le spectacle. Et surtout, comme d'habitude avec le collectif, nous ce qu'on aime c'est passer par l'humour pour essayer de proposer un miroir déformant, peut-être même pas forcément tant que ça, aux spectateurs, pour par un rire fédérateur essayer de recréer du collectif et de faire de tous ces sujets qu'on se prend avec grande violence dans l'intimité, du politique, voilà.
Et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que l'idée de catastrophisme, d'environnement et d'exploitation de la planète...
Et de patriarcat,
pas facile à... Non, oui, bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi je mets l'accent sur le catastrophisme, parce que le patriarcat, c'est peut-être plus facile de s'en moquer, ou de faire de l'humour dessus, parce que c'est une domination et que l'humour renverse les dominations. En ce qui concerne le catastrophisme, l'environnement, etc., généralement, pour sensibiliser un peu, parce que j'imagine que c'est aussi le but, bien sûr, c'est plus difficile de faire de l'humour, en fait, plutôt peur que rire avec
faire
ça.
Faire rire un ours polaire, c'est très difficile, bien évidemment.
Et c'est dangereux.
C'est sûr. Non, le fil est évidemment beaucoup plus ténu, et puis les portes du slalom à éviter, à pas se prendre, sont encore plus serrées. Oui, c'est assez difficile, et je pense qu'on avait à cœur de, encore une fois, essayer de prendre ce gros taureau par les cornes. Belle métaphore.
C'est un peu spécifique.
Vous auriez pu dire par les couilles, ça ne serait pu être pire.
Mais en fait, c'est vrai, c'est tout le temps des gros éléphants, pour continuer sur ma lancée. Les sujets des spectacles de l'Avantage du doute. Après, c'est pas purement thématique, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de rendre compte d'un bain ambiant. Oui, effectivement, la peur est là. Je pense qu'on a réussi à essayer d'avoir un rire qui peut être cathartique par moment et qui est jamais ironique, parce qu'il y a vraiment un danger évidemment avec une espèce de nihilisme ou de nivellement par un je m'en foutisme comme ça. Donc il y a un dîner, auquel un végétarien s'invite et qui part très loin.
Très loin, en tout cas, jusqu'au théâtre de la Bastille.
Ça ressemble à ce qu'on vit nous, quand on va manger ensemble.
Oui. Théâtre de la Bastille jusqu'au 27 mai, encore plus partout, tout le temps. Judith Davis est avec nous jusqu'à 18h, bien sûr, et pour une Jupie Masterclass de cinéma. Et puis, il y a l'étude de Donald Trump qui font un retour dans l'actualité, avant peut-être un retour de Donald Trump sur Twitter. Et ça, Isabelle Sorrente, vous vous piquez d'actualité aujourd'hui, avec la distance qu'on vous connaît, bien sûr, Isabelle.
Faux président, menteur, la personnification vivante de la classe politique dépravée et décrépite. Joe l'endormi, politicien corrompu, acheté et payé par la Chine. Un politicien corrompu qui a vendu la Pennsylvanie, un désastre. Le candidat des émeutiers, des escrocs, des brûleurs de drapeaux et des lobbyistes. Politicien corrompu, il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse. Il va vous poignarder dans le dos, en capital. Son discours, c'est 90% d'histoire et de mensonges, en capital. Il ne sait rien. L'incarnation vivante d'une classe politique corrompue qui s'est enrichie sur le dos de la vie économique et de l'âme de notre pays. Il a toujours été un politicien corrompu. Ça ne fait qu'empirer, c'est de la démence en cap. Complètement débile, fou, un désastre total et complet en cap. Un mondialiste corrompu qui n'a jamais manqué une occasion de poignarder les travailleurs américains dans le dos, corrompu. Corrompu. Il va augmenter vos impôts et détruire Cap, notre pays. Un idiot au QI très bas, Cap. Il va vous rendre pauvre et vite, Cap. Il ne sait ni où il est, ni ce qu'il fait. Il a totalement perdu le contrôle. Alors aujourd'hui, donc, je ne chronique pas un roman, mais les tweets de Donald Trump. Ils ont été publiés l'année dernière par le New York Times. Je vous invite à lire cette anthologie. C'est très inspirant, surtout que moi, ce matin, j'ai passé beaucoup de temps à en traduire quelques-uns. C'est juste juste 10% du florilège. Cette poésie haineuse, donc, on l'a traduite de bon matin. Que ne ferait-on pas pour vous, les amis, pour faire une chronique ici? Alors, le plus vertigineux dans cette litanie, hein, c'est le sentiment obscur que Trump, sans s'en rendre compte, se décrit lui-même.
Hein. Oui,
bah oui. Et oui, il ne sait ni où il est, ni ce qu'il fait. Il a totalement perdu le contrôle. Ah, tout ça en capital, évidemment. Les capitales marquant l'intensité de l'indignation, les points d'exclamation signalant la rage virile, les points d'interrogation, le mépris pour le discours de l'adversaire, bullshit, bullshit, crotte de taureau. La poésie haineuse est un nouveau genre littéraire plus percutant que le haïku. Pas besoin du cours de littérature pour s'y mettre, il suffit de suivre la règle du CPPMI, capital, point d'exclamation, point d'interrogation, mensonge, insulte, et d'être abonné à Twitter. Twitter qu'Elon Musk, vous le rappeliez Charline, l'homme qui veut coloniser la planète Mars, s'apprête justement à racheter pour y autoriser ce que lui appelle la liberté d'expression, c'est-à-dire en pratique hein, le retour de Donald Trump et les incitations à la haine. Alors le problème avec la poésie haineuse, c'est que ces litanies sont très efficaces. Capital, point d'exclamation, point d'interrogation, mensonge, insulte, c'est le langage de nos pulsions, le langage de la réaction immédiate et hypnotique. Le compte de l'ancien président a été suspendu après ce tweet faisant suite à l'invasion du Capitole. Ce sont les choses qui arrivent lorsqu'une victoire lors d'une élection sacrée est volée si vicieusement des mains des magnifiques patriotes qui ont été maltraités depuis si longtemps. Ainsi parle la pulsion, ainsi nous aveugle-t-elle. Une partie de l'électorat anglais a voté en faveur du Brexit après que des mouvements d'extrême droite aient propagé une fausse information selon laquelle un budget de 350 millions de livres destiné à la sécurité sociale avait été transféré à l'Europe. C'était faux, mais une fois la pulsion déclenchée, eh bien c'est comme une narration impossible à arrêter. Le vote est déjà dans l'urne, il vous faut lire l'histoire jusqu'au bout, même si elle est catastrophique. Conclusion de cette chronique, méfiez-vous des poèmes brefs, tous ne sont pas des haïkus. À défaut de savoir détecter les mensonges, les insultes, les capitales et les points d'exclamation sont la preuve qu'en ce moment même, quelqu'un tente de contourner vicieusement votre conscience maltraitée depuis si longtemps pour s'adresser directement à vos magnifiques pulsions. Méfiez-vous du narrateur enragé car il vous veut à son image. Il ne sait ni où il est, ni ce qu'il fait. Il a totalement perdu le contrôle.
Isabelle Sorrente, merci. On adore quand vous lisez... ces choses-là.
Ah oui, des petits poèmes de Donald
bien
Trump.
Bien sûr, hein, ça donne vraiment avant de dormir.
Voilà, voilà. Petit florilège.
Oh, oui. Raconte-moi encore des tweets de Donald Trump avant de dormir. Merci Isabelle Sorrente. Place à la musique sur France Inter. From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice. You hear life. Stone par Siouxsie and Banshees sur France Inter.
Oh, oh, c'est là.
Quel anglais.
C'est un groupe de Montargis.
Arrêtez avec ça. Ah ben voilà, je vais faire une mise au point. J'avais une chronique sur le parachutage de Jean-Michel Blanquer à Montargis. Oui. Et comme Nicolas Demorand m'a lancé en disant Montargis, je me suis dit, ah ben c'est Nicolas Demorand, il sait ce que c'est. Donc ouais. Je dis Montargis tout le temps.
Vous venez d'outer Nicolas Demorand.
Ah oui, gentiment. Mais parce que là, on ne me parle que de ça depuis ce matin. Donc il y a un moment, j'ai envie de répondre aux gens, oui, j'ai dit Montargis, oui. Est-ce que vous ne dites pas Bruxelles alors que c'est Bruxelles?
C'est la bonne réponse.
Voilà, donc là, c'est réglé. Mais Nicolas, je t'embrasse. Je te retrouve demain avec plaisir.
Nicolas.
Allez, arrêtez vos conneries, c'est le journal.
D'abord, les élèves, et c'est pour ça qu'ils sont majoritairement très favorables à cette réforme, les élèves ont eu beaucoup plus de choix. Le mot-clé, c'est liberté. Ils savent très bien que c'est beaucoup mieux qu'avant, quand ils n'avaient pas un tel choix.
Le journal de presque 17h17.
Non potest gratis, constar et libertas. Il faut bien que la liberté nous coûte quelque chose.
Libertas. Et on commence par les titres.
Oui, Jean Castex organise son pot de départ ce soir à Matignon.
Et oui, et si son pot de départ est à l'image de la flamboyance de son passage à Matignon, les convives auront droit à du mousseux tiède et un apéricube de 97.
Et à la sortie du Conseil des ministres ce matin, un des proches d'Emmanuel Macron a confié que le président préparait, je cite, un Big Bang pour après les législatives.
Oui, alors si on parle du recul de l'âge de la retraite et du recul de plein d'autres acquis sociaux, eh bien je pense qu'on est plus dans le Grand Bang que dans le Big Bang.
Et des brèves.
Aucune démission en vue au ministère de la brève. Je reste.
Oui, c'est moi qui me suis nommé, si vous voulez.
C'est plus facile. La grosse information du jour, c'est
l'enfant. Et oui, d'après France Info, l'actuel Premier ministre est pressé de quitter son poste et souhaite prendre une pause.
Et oui, il veut prendre sa retraite à 56 ans. Bah oui, tu m'étonnes qu'il ne veuille pas rester au gouvernement, qu'il veut repousser la retraite 9 ans plus tard.
Et oui, Jean Castex a d'ailleurs précisé qu'il ne voulait pas entrer dans le prochain gouvernement.
C'est Manuel Valls. Malaise vagal.
Ouais,
c'est un choc. Des gens qui refuseraient d'entrer au gouvernement,
c'est fou.
Ça la déstabilise.
Quant à Richard Ferrand, il se verrait bien rester président de l'Assemblée nationale et il a même déclaré « j'aimerais poursuivre ma mission ».
Poursuivre ma mission, qui ici peut se traduire simplement par continuer à bénéficier de mon immunité parlementaire.
Comme vous y allez. Allez, toute autre chose. Le président d'Interpol est visé par une information judiciaire pour complicité de torture.
C'est n'importe quoi. C'est comme si un ministre de la Justice se retrouvait un jour jugé devant un tribunal.
Soupçonné de prise illégale d'intérêt, Éric Dupond-Moretti risque désormais un procès.
Voilà, c'était pas un bon exemple. Il est en train de continuer sa découverte à 360 degrés de la justice. Il a été avocat, il est gardé sous et bientôt prévenu.
Ouais. Voilà. À l'international, en Russie, Maria Alyokhina, figure des Pussy Riot, se déguise en livreuse pour fuir son pays.
Et oui, même les évasions sont en voie d'ubérisation. C'est étrange.
Par rapport à Carlos Ghosn, oui. C'est sûr que l'évasion était un peu plus low cost.
Oui, et franchement, à la place du client, moi, j'aurais trouvé ça moyen. J'aurais pas aimé.
Ouais. Qu'est-ce que vous auriez pas aimé?
Quand elle est arrivée en Lituanie, la pizza, elle devait être bien froide. Alors à mon avis, il a pas mis beaucoup d'étoiles. C'est tout ce que je veux dire.
Mais on a l'habitude des pizzas froides. Si je peux me permettre. Connaissant le pays.
C'est vrai que nous avons notre représentante personnelle, Guy Edré, qui est avec nous. Représentant l'ambassade de Vilnius. Allez, passons au climat. Face à la sécheresse et au déficit des réserves en eau, une hydrogéologue rappelle que chaque personne doit veiller à ne pas gaspiller l'eau inutilement.
Et oui, cette dame a tenu à féliciter une certaine Juliette Arnaud, qui depuis de nombreuses années donne l'exemple en étant extrêmement parcimonieuse dans sa consommation quotidienne d'eau.
Et environnement encore, en Gironde, des milliers d'étoiles.
Non, vous ne l'aviez pas vu arriver, Juliette. Vous étiez à côté de moi, excuse-moi.
Moi, je suis avec vous, Charles.
Non, c'est parce qu'elle souffle. Elle souffle dans le micro. Du coup, les auditeurs, ils se disent, oui, elle râle et tout, on n'écoute plus le journal, donc je voulais replacer les choses. Excusez-moi.
Vous m'avez interrompu.
Oui, j'ai fait du mansplaining.
Mais carrément.
Je le dis. Mais c'est
Man interrupting.
C'est parce que Juliette soufflait. Donc elle a fait du woman souffling. Et du coup, je me sentais obligé de.
Carrément, il m'a interrompu.
Ouais. C'est même du aquasplaining. On parlait de.
Excusez-moi, Charline, pouvez-vous recommencer
s'il vous plaît? Bon, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire. Parce qu'il y a un moment.
Je me demande à genoux, Charles.
Bon, je sais pas. N'exagérez pas. J'ai peur que vous mettez à genoux. J'ai peur. Environnement encore. Restez assis. Des milliers étoiles de mer se sont échouées sur la plage de la dune du Pila.
Et oui, et c'est pas la première fois que des étoiles se retrouvent à un endroit où elles n'ont vraiment pas leur place. Je pense notamment au maillot de l'équipe de France où on en a.
Un sport.
On peut pas rire de tout.
Car... Yannick Noah a confié dans. Attendez, dans l'excellente émission Télématin.
Oui, moi c'est moi qui prends.
Là, vous m'interrompez, papa.
Non, c'est vous qui l'avez dit.
Yannick Noah a confié à Télématin qu'il serait prêt à devenir le coach de l'équipe paralympique de tennis pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Et super nouvelle, ça, pour les sportifs sourds qui ne devront pas entendre Saga Africa en cas de victoire.
Et je sais pas si je vais vous
lancer sur... Allez,
je ne sais pas, parce que...
Elles sont super.
Je ne sais pas.
Allez, en Vendée.
Allez.
Elle découvre une perle en mangeant une palourde. Valérie Pécresse aurait été aperçue sur la plage des Sables d'Or avec des bottes en caoutchouc et une épuisette.
Et la dernière,
à Manchester, un homme se fait tatouer des abdos pour éviter de faire du sport. Oh, oui. On est clairement dans un gainage level Guillaume Meurice, comme on appelle ça.
Ah, le génie, bordel.
Merci, Alex Vizorek.
De rien, Charlie Van Wecker.
Voilà. Donc maintenant, il va se passer quelque chose. Donc je vais faire un lancement et puis ça va être Juliette, faut pas interrompre.
Hein. Jusqu'à 18h.
Voilà, allez. Juliette Arnaud, votre choix littéraire, un classique, puisque nous sommes mercredi, fait débat sur le thème de la cancel culture. Vous m'avez annoncé au moment de le lire, je vais lire un salaud. Je dis pourquoi pas. Okay. Vous avez dit parce qu'il est salement doué. D'où l'envie de le lire. Moi j'ai dit allez-y, je vous soutiens. Il s'agit de Maurice Sachs. Et le livre est intitulé « Le sabbat, souvenir d'une jeunesse orageuse ».
Pour bien le préparer, ce bac français, je crois que je vais proposer au futur ministre de l'Éducation nationale un jeu des sept familles des écrivains et des écrivaines. Alors, j'ai pas encore bien clair dans ma tête les détails, mais je pense qu'il y aura la famille des « Ma maman, c'est ma vie », Colette, Romain Gary, celle des Marguerites, Ursenard, Duras, et ma mamie qui s'appelait Marguerite et qui n'écrivait pas, mais je voulais lui dire bonjour mamie. Il y aura la famille des écrivains combattants héroïques, Malraux, Hemingway, Orwell, et donc forcément le pendant des héroïques, il y aura la famille des affreux. Avec comme chef de famille Céline, que ça n'empêche pas d'être réédité, très récemment d'ailleurs, avec un roman tout neuf. Comme cousin en perruque poudrée, le marquis de Sade. Et comme tonton fantôme, Maurice Sachs. Alors ce dernier patronyme vous est sans doute inconnu, et jusqu'à récemment, moi-même, je ne connaissais que vaguement son existence, sans l'avoir jamais lu. Son nom, comme un fantôme, revenait sans arrêt quand je me penchais sur la vie artistique des années 20-30. Un peu comme un fantôme, mais alors un fantôme qui aurait connu tout le monde, et réciproquement, ami des uns, et pas n'importe lesquels, Max Jacob, Cocteau, secrétaire particulier des autres, André Gide ou Gabriel Chanel, se baladant entre le monde des livres, celui de la peinture et de la mode, et même celui du théâtre avec Pierre Freinet. Sabbat, c'est l'histoire de sa vie. Son histoire, sa confession, son ultime tentative pour être compris, pour se comprendre, pour qu'on lui pardonne, pour qu'il se pardonne, mais a-t-il beaucoup à se faire pardonner ? Alors à cette question-là, je peux répondre oui, tout à fait, beaucoup, des tonnes. Dès le départ, Maurice Sachs avait des intuitions dangereuses dans la tronche. Vous vous souvenez peut-être du film de Scorsese, Les Affranchis. Au début du film, on entend la voix off du futur criminel mafieux qui dit « As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster », ce qui veut dire « d'aussi loin ». Que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Et ben moi j'ai sursauté en lisant Sabbat, parce que je suis tombée sur cette phrase où Maurice Sachs écrit « D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours dit j'aurais du génie ».
Comme Alex. C'est
vraiment le point qu'on a entre rien dire parce qu'on demandait deux termes, mais j'ai pensé.
Il continue, Maurice Sachs, en disant « Cette phrase me consolait de tout, mais on en voit l'enfantillage. Résultat, je rêvais d'actions géniales. Napoléon eût-il fait cela ? Ou Stendhal, ou Balzac, ou Rousseau ?» Alors moi, Juliette, je ne sais pas ce qu'auraient fait tous ces gens-là pendant l'occupation, mais je sais ce qu'a fait Maurice Sachs. Eh ben, c'était pas ce qu'a fait Jean Moulin. Et pourtant, j'ai adoré ce livre, tout en étant parfaitement rebutée par cet homme, mais jamais assez rebutée pour lâcher la lecture, toujours avide de piger comment ce petit garçon, pas aimé, élevé dans le plus grand des désordres, amoureux fou des livres, des écrivains, d'art, a pu, d'erreur en saloperie, devenir et un affreux, et un magnifique écrivain, et mais pas de son vivant. Voilà. Il y a une justice quand même, c'est un posthume qu'il est devenu vraiment un écrivain. Et puis j'ai re-sursauté, oui, c'est ce qu'on appelle une lecture active, en prenant conscience que Saba n'est pas le livre d'un très vieil homme pleinement conscient de sa mort prochaine. Ça, c'est le ressenti, hein, comme pour la météo. Mais en réalité, c'est un livre qui a été composé par un homme de moins de 40 ans, en partie dans une prison à Hambourg pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il est juif, homosexuel, escroc, et qui pense pourtant encore, en écrivant ça, qu'il va s'en sortir. Encore une fois, il écrit « J'irai vers l'Orient, s'il me reste quelques chances, vers la grande liberté païenne de l'amour, vers les climats faciles et les nourritures frugales. Écoutez bien ça, je n'ai plus envie d'être grand, ni célèbre, ni parfait, mais je veux aller où je puisse être obscurément un homme qui ne me dégoûte pas. »
Comme Alex. Vraiment, on est vraiment sur la même ligne.
Alors ceux qui ne se dégoûtent jamais, quand bien vous fasse, n'iront pas à Maurice Saxe et à son Saba. Moi, je trouve que c'est couillon parce qu'il y a dedans des lumières terribles, dont celle qui dit que... Mais la semaine prochaine. Merci. Oh merci. Oh
merci, Juliette Arnaud. On attend la suite, bien sûr. Judith Davis est avec nous, avec le collectif théâtral L'Avantage du Doute. Elle est au Théâtre de la Bastille. Et puis, tout ce qu'il me reste de la Révolution sera aussi projeté le 14 mai, attendez, c'est bientôt ça, à 17h30 au Théâtre de la Bastille, en présence de toute l'équipe. C'est un film que nous, on a adoré, je le répète. Un film qui est écrit aussi sur mesure pour vous. Quelle est la vie de ce film, en fait, depuis qu'il est sorti? Est-ce que il continue sa route? Là, il est reprojeté une fois. Est-ce que ça arrive qu'il soit reprojeté, qu'il fasse un petit chemin?
Ouais, tout ce qu'il me reste de la Révolution... Ça a une chouette vie, il continue d'être projeté parfois dans des théâtres quand il y a une invitation du collectif. Voilà, il y a aussi le film qui est projeté ou pas mal d'associations s'en sont
emparées pour exactement. Sur la tête politique aussi.
Exactement. Et moi, j'ai vraiment accompagné le film pendant plus d'un an pour justement pouvoir utiliser le film pour faire naître des débats, des rencontres. Et il continue, en fait.
Il y a encore une envie de cinéma de la part du collectif ou vous êtes recentré sur le théâtre?
Le collectif, c'est vraiment un collectif de théâtre, d'acteurs, d'actrices, d'auteurs et d'autrices. Mais moi, je continue d'écrire.
Il y a un moyen-métrage, hein, Va dans les bois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, parallèlement à l'activité que moi, j'ai avec ce collectif, il y a eu cette commande de l'École nationale de la Comédie de Saint-Étienne, qui est une école de théâtre, qui m'a demandé d'écrire sur mesure un court-métrage pour une promo sortante de jeunes acteurs et actrices l'année dernière. Mmh. Et ce court-métrage est projeté aussi au Théâtre de la Bastille vendredi.
Et le 14 mai au Reflet Médicis aussi.
À 11h30. Ouais, voilà.
Judith Davis, qu'on entendra tout à l'heure à la fin de l'émission, bien sûr. Les retards à la SNCF ont failli nous priver de vous, cher Guy Edré. Heureusement, vous êtes arrivé jusqu'au piano installé dans notre studio. Une nouvelle chanson romantique, sans doute.
Oui, bien sûr. Mais toujours un peu hard rock, hein, si on me connaît.
Sur terre des gens qui veulent obliger d'autres gens à avoir des enfants. Ah non, pardon, des hommes qui veulent obliger des femmes à avoir des enfants. C'est quand même bizarre d'absolument vouloir qu'il y ait encore plus de gosses qui hurlent dans le bus, qui hurlent dans les trains, qui hurlent dans les magasins, qui hurlent si on leur met un pull bleu, qui hurlent si on leur enlève le pull bleu. Mais partout il y a des tarés, et qui sommes-nous pour les juger? S'ils aiment les enfants tant que ça, qu'ils prennent ceux dont les femmes veulent pas. Si les fœtus c'est ton dada, mets-les dans ton ventre à toi. Si ton truc c'est les embryons, mets-les dans ton ventre de gros con. Si tu penses qu'il faut jamais interrompre une grossesse non désirée, que doivent absolument venir au monde tous les ovules qu'on féconde, j'entends ton point de vue, mais il faut être logique, vois-tu. Ces gosses, y'a que toi qui veux qu'ils naissent, donc je propose qu'on te les laisse. Que tu les allaites toutes les heures, que tu les changes toutes les deux heures, que tu te lèves cinq fois par nuit, que tu sois recouvert de vomi. En plus de ça, bien sûr, faut que tu bosses pour subvenir aux besoins du gosse, car c'est quand même toi qui as décidé qu'il devait exister. Mais si les fœtus c'est ton dada, mets-les dans ton ventre à toi. Si ton truc c'est les embryons, mets-les dans ton ventre de gros con. Bon, pour être tout à fait juste, faudrait que ce soit dans ton utérus que grandisse cet enfant pour la vie duquel tu te battes. Il faudrait que ce soit toi qui vomisse pendant 9 mois, toi qui te pisses dessus chaque fois que tu éternues. Mais la nature a fait ses lois, l'épisiotomie c'est pas pour toi. Dommage, car le cas échéant, pas sûr que tu t'opposes à l'avortement. Tu lutterais même sûrement pour pouvoir le pratiquer plus tard dans le temps, genre quand le gamin atteint la vingtaine et vote LREM. Mais si les fœtus c'est ton dada, mets-les dans ton ventre à toi. Si ton truc c'est les embryons, mets-les dans ton ventre de gros con.
C'est Guédré. Merci Guédré, dont merci. La tournée continue, ce que vous appelez la tournante bien oui. sûr. Vous serez demain à Lausanne, cher Guédré, oui. et puis samedi à Toulon, et puis le 20 mai à Arles.
Oui, parce que malgré tout, j'aime bien la SNCF.
C'est vrai. Rejoignez-nous à table, Guédré et Alex, qui est autour de cette table pour nos auditeurs.
Eh ben, on a entendu déjà Isabelle Sorrente, Juliette Arnault et Guédré. Il nous reste encore Laëlia Véron et la très attendue masterclass de cinéma de Judith Davis. Et si ça vous dérange pas, Charline, si un homme fait une chronique, enfin, je sais pas comment vous le voyez, enfin, c'est quelqu'un qui est très déconstruit. Enfin, pas autant déconstruit que moi, mais très déconstruit. Et d'ailleurs,
vous êtes mon maître.
Il déconstruit les Français au quotidien. C'est Guillaume Meurice.
Oui, bah, je vais vous parler d'IVG aussi parce que je voudrais compléter ce qu'a dit Guédré. Je trouve qu'elle était un peu partisane dans la chanson. Et, bon, ouais. Comme moi, ma spécialité, c'est l'objectivité. Sûr, je vais quand même essayer d'un petit peu rééquilibrer la balance.
S'il vous plaît.
On vous en parle parce qu'aux États-Unis, les anti-IVG gagnent du terrain. On attend d'ailleurs une réaction forte de Joe Biden, qui est pour l'instant occupé à vomir dans sa soupe et essayer de se rappeler qu'il faut faire pipi après être arrivé aux toilettes. Mais là, c'est évidemment donc les conservateurs qui sont à la manœuvre, les catholiques, qui expliquent qu'on ne doit pas interférer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça l'argument. Alors, ils ne sont pas rancuniers, parce que quand on les voit et qu'on les écoute, on se dit que Dieu, parfois, il se termine au mojito, hein, clairement à l'Eden Paradise. Alors, est-ce que cette fronde anti-IVG a des chances d'arriver en France? Qu'en pensent les gens? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ce matin. Et bien sûr, les gens défendent l'IVG.
Il faut continuer à ce qu'elle a fait Simone Veil.
Ok.
Parce qu'on est trop nombreux sur Terre. On est trop nombreux.
Ah oui, pour des raisons démographiques.
Bah oui, on est trop nombreux. Il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes.
Dans le monde?
Ouais.
7 fois plus?
Ouais, 7 oui. fois plus.
D'où sort ce chiffre-là?
C'est connu, c'est vachement connu.
7 fois
plus, ouais. C'est certain.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est bien de tomber comme ça sur des démographes dans la rue. C'est rare.
Donc on a droit à 7 alors.
Et ben ça explique pas mal votre fatigue. Encore que vous faites que les EHPAD, donc vous vous limitez. Mais bon, c'est compliqué. Alors une fois qu'on a fait ce constat lucide de la situation, bon, on peut attaquer, on peut y aller dans le vif du sujet.
On n'avorte pas. Enfin, je sais pas. T'es enceinte. T'as voulu tomber enceinte de quelqu'un. Pas ce genre de choses, je sais pas moi.
Si justement la personne n'a pas voulu,
c'est pas bon. On a pas, c'est inhumain.
Voilà, hein, ça c'est classique, hein, c'est la classique. Alors c'est vrai que moi j'aime quand même pas mal demander leur avis à des gens qui sont pas concernés du tout. C'est pas moi hein, qui ai inventé le concept. Léa Salamé le matin, elle parle de pauvreté avec Le Pen et Carlos Ghosn. Donc voilà, on a le droit de s'intéresser à ce qui nous concernera jamais. Moi des fois je parle de gainage ou d'honnêteté intellectuelle. Voyez, on peut pas besoin d'être compétent dans un domaine pour en parler. C'est le principe. Donc j'ai continué.
Ben moi, je suis anti-avortement, forcément.
Pourquoi forcément?
Pour moi, c'est épouvantable.
Ouais.
Bon, mais pour moi, c'est horrible. Horrible. L'avortement, c'est un assassinat.
Voilà, c'est bien parce que c'est toujours un débat apaisé. Et puis, il y a toujours des bons arguments. C'est pour ça que j'aime bien. Alors, je rappelle que la masturbation est un demi-génocide. Hein, Alex, vous êtes une sorte de mini-Himmler. Je suis désolé, vous prenez cher aujourd'hui, mais en termes de parité...
Allez-y, terminez-moi.
C'est un peu dans la merde.
J'aurais pas dit ça. Je pense que c'est sorti tout seul, non?
Quand il y aura un procès de Nuremberg, voilà, il y a pas mal de rouleaux de sopalin qui vont témoigner contre vous. Voilà, bon, alors, c'est pour ça que j'ai interrogé que des mecs pour essayer de rééquilibrer un petit peu, refaire de la parité dans cette émission. J'ai interrogé les mecs sur le droit des femmes à disposer de leur corps.
Mais ça ne veut rien dire ce que vous dites. Mais vous ne disposiez pas à votre corps?
Moi? Si, un peu non. Si.
Mais non, non plus.
Vous, vous ne disposez pas de votre corps?
Mais non, mais si vous avez un cancer, vous allez vous battre contre qui?
C'est quoi le lien entre le cancer et l'IVG?
Non, mais c'est pour vous. Vous voulez être maître de votre corps. Mais vous n'êtes pas maître de votre corps. Le cancer vous tombe dessus, vous n'avez rien demandé.
Alors, au championnat du monde de comparaison foireuse, j'avoue que moi j'avais un petit niveau déjà, je pensais, mais là on est clairement sur un podium. Voilà, puisque le cancer existe, il faudrait interdire l'IVG, et puisque la verrue plantaire existe, il faudrait interdire la vasectomie. Voilà, chacun jugera, voilà. Et ne vous y trompez pas, ce monsieur est féministe.
Hein, parce qu'on aurait pu en douter à un moment donné. Il est féministe.
Ah oui.
Vous êtes féministe.
Ah oui, j'ai toujours respecté ma femme.
Mais alors respecter sa femme, est-ce que c'est pas justement la respecter si elle a envie d'avorter aussi?
Une femme n'a pas envie d'avorter, c'est pas vrai. Les femmes n'ont pas envie d'avorter. C'est l'histoire des gamines qui couchent avec n'importe qui et qui débarrassent du produit. Alors là, c'est épouvantable.
Bon, alors oui, on dit toujours que les Américains ont 30 ans d'avance, mais on a un niveau aussi quand même dans la compète. On est pas mauvais. On a des spécialistes, et bon, bah, le spécialiste le meilleur, vous savez qui c'est. Et c'est vrai que Juliette m'a dit, tiens, tu parles d'IVG, ce serait bien d'avoir l'avis de Roger. Ah, c'est vrai que Juliette est vraiment beaucoup demandeuse de l'avis de Roger sur ce genre de sujet.
Sur tous les sujets.
On a tous envie de ça. Eh ben, c'est plus surprenant que prévu.
Ah. Moi, je suis un peu pour l'avortement quand c'est fait dans très bonnes conditions. Ouais. Donc, la médecine de maintenant, je ne sais pas aux États-Unis comment c'est. Tu as tout, moi, le tien, j'ai eu des problèmes. Les dents, je fais arranger les dents. Ils m'ont raboté les dents du bord pour que de haut. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Les yeux, j'ai opéré la cataracte, je vois moins bien qu'avant. La médecine, j'en ai plein le cul.
Voilà, bon, mais il est pour quand même. Attendez, il est pour l'avortement si c'est fait dans de bonnes conditions. Et quand Roger a l'avis le plus modéré de la chronique, c'est rarement bon signe pour la thématique. Donc je préfère prévenir, va falloir rester vigilant. Vous inquiétez pas, Roger aussi est féministe.
Très féministe, j'adore les femmes. C'est qu'on des beaux singes.
Est-ce que c'est vraiment ça la définition du féminisme?
Elle avait une belle femme dans ses bras, c'est bien, de toute façon. Hein. Parce que, moi, je vois pas l'utilité. Hein.
Un homme, je vois pas l'utilité. Je préfère m'arrêter là-dessus. Je suis pas certain de ce qu'il voulait dire exactement. Je préfère lui laisser le bénéfice du doute. En rappelant que l'avortement, c'est ce qu'auraient dû faire toutes les mamans des militants anti-avortement. Et que la vasectomie, tous les papas des militants pro-vie auraient dû le faire aussi.
Guillaume Meurice.
Voilà.
Et oui. Et puis, on nous dira encore que les féministes sont radicales. Alors, je vous conseille de réécouter, de partager abondamment cette chronique de Guillaume. Je vous remercie. Enfin, pas tellement. Les exercices, Alex, pour les pitchounes.
Oui, exercices, bien sûr. Vous êtes rendu compte, il fait chaud. Il fait chaud en ce moment, même des records. Alors, un petit exercice météo aujourd'hui. Où fait-il le plus chaud aujourd'hui en France? Réponse A, au Parti Socialiste. Réponse B, dans les t-shirts, dans les maillots. Et l'amicale d'Éric Chardin me remercie. Mm-hmm. Réponse C, à Braise, dans l'Allier. Oh. Et l'amicale des jeux de mots de qualité se régale. Oui, je vous laisse un petit temps pour la voir. Et réponse D, dans le slip de PPDA.
Alors, nous sommes en pleine période de parachutage aux législatives. Alors, on va vérifier si vous avez bien suivi. Parmi les parachutages suivants, lesquels sont vrais? Petit A, Jean-Michel Blanquer a été parachuté à Montargis. Montargis avec un I comme Ibiza. La Montargis est le Ibiza du Loiret, tout le monde le sait. C'est petit vrai. B, Gabriel Attal a été parachuté au collège Marie Curie pour devenir délégué de la 5e B. Petit C, Gérald Dahan est candidat en Charente-Maritime, mais pour avoir plus de chances de gagner, il fera campagne en imitant Nicolas Sarkozy. Petit D, Manuel Valls a été parachuté dans 378 circonscriptions pour espérer en gagner une. Et je vous signale qu'il y a deux bonnes réponses dans mon exercice à voir sur Facebook. Bien sûr. Guillaume.
Oui, Tahar Bouaf a donc abandonné la course aux législatives et ce, quelques jours après avoir été investi par la NUPES, on ne sait jamais comment on dit, on ne sait toujours pas, suite à des accusations d'agression sexuelle. Mais ce n'est pas le seul à lâcher l'affaire quelques jours après avoir démarré un truc. Dans la liste suivante, trouve les bonnes réponses. Roselyne Bachelot a abandonné toute action un quart d'heure après avoir été nommée ministre de la Culture. PPDA a abandonné son abonnement à Mediapart. pas satisfait du service. C'est les tennismen français. Abandonne Roland Garros avant la fin de la première semaine. Ah. Voilà. Ah oui. Réponse D, Max Bird. Vous vous souvenez de Max Bird?
Bien sûr.
Oui. Voilà, il est abandonné par Jupiter, 6 mois. Voilà, 6 mois. Et on l'embrasse.
Oui, on l'embrasse bien très évidemment. Fort.
Il va
bien
beaucoup
sûr.
Mieux depuis, je crois.
Depuis qu'il nous fréquente plus. 17h47 sur France Inter et la petite académie de par Jupiclasse à sa linguiste et stylisticienne. C'est la chronique de Laëlia Véron.
Merci Charline. Aujourd'hui, je voulais vous parler des préfixes qui sont à l'honneur avec le nouveau nom d'En Marche qui est devenu Renaissance. Mais quels sont les autres partis politiques qui se servent de préfixes dans leur nom? Dites-moi, normalement vous devriez répondre là.
Reconquête,
ah ouais. D'accord. Ouais. Mais aussi Rassemblement National, hein, c'est une variation du préfixe re plus Assemblement. Ouais. Il y a plusieurs formes du préfixe, re devant consonne, ré ou r devant voyelle. Et on a aussi un préfixe dans le 1 de la France insoumise. Hein, ça sous-entend, ah on oui. est insoumis, les autres vous êtes bien soumis. Ah oui. Et vous avez aussi le anti d'un parti anticapitaliste. Alors, le nouveau parti anticapitaliste. Un préfixe, qu'est-ce que c'est? C'est un morphème, c'est-à-dire une unité minimale de sens qu'on peut ajouter à une base pour créer un nouveau mot qu'on appelle un mot dérivé. Devant la base, c'est un préfixe et derrière la base, c'est un suffixe. Et c'est un outil très pratique pour créer de nouveaux mots. Les enfants, par exemple, quand ils naissent, vont utiliser, un peu après, vont utiliser dès très spontanément, par exemple, dire en référence à rapprocher, déprocher au lieu d'éloigner. Oh. Ou par exemple, remolir en opposition à démolir ou à démourir pour ressusciter. Mais ouais, vraiment, vous aurez des exemples. Mais les adultes aussi jouent facilement avec ces préfixes. Il y en a que tout le monde fait spontanément. Hein. Quand nous avons été en confinement, on a fait déconfinement, puis reconfinement, puis redéconfinement. Et puis on a bien les préfixes, mais au bout d'un moment, on en est marre de jouer avec. Ce qui est fascinant, c'est que les préfixes qui nous servent aujourd'hui à créer de nouveaux mots sont très anciens. Ils viennent en général du latin et du grec. Le préfixe « re », par exemple, vient du latin. Il est très facile d'utilisation. On peut le doubler à l'infini, par exemple. Manuel Valls va-t-il se reviander en politique lors des législatives? On peut le doubler, le tripler. Ça peut faire des effets absurdes et comiques. Et je vous ai dit Manuel Valls, mais un exemple dans Voltaire, dans Candide, lorsque le héros est tellement énervé contre son interlocuteur qu'il a envie de le tuer, de le retuer. Petit exercice, puisque c'est mercredi, quels sont les sens possibles du préfixe « re » ? Alors, le sens le plus évident du préfixe « re » ?
À nouveau, refaire l'action.
Voilà, la répétition, faire, refaire. Mais il y a aussi le sens du retour en arrière ou un état initial, rentrer, reposer, raccommoder. Mais aussi un sens qu'on peut appeler intensif. Par exemple, dans « ressentir », c'est pas « sentir à nouveau », c'est « sentir intensément ». Et quelquefois, dans la langue, on a gardé uniquement le mot dérivé. Par exemple, « renforcer », au départ, c'est un intensif de « enforcer », enforcer beaucoup. Et d'ailleurs, la linguiste Isabelle Veil, qui est ma source et ma recommandation pour cette chronique, insiste sur la richesse sémantique de « re » et sur l'importance du contexte pour comprendre cette richesse. Par exemple, « relever ». Selon les contextes, le « re » dans « relever » aura un sens différent. « Relever une sauce ou un plat », »,« relever un prix », c'est une amélioration, une augmentation. Mais « relever quelqu'un de ses fonctions », c'est au contraire négatif, c'est une perte. Hein. En tout cas, une perte de frais de mandat pour certains, par exemple Coralie Dubost. Et pour voir si vous avez suivi, alors le re dans nos partis politiques, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour rassemblement, là c'est un re intensif, c'est un assemblement qui est censé être porté à un haut degré. Pour reconquête et renaissance, c'est l'idée de répétition, hein, de conquérir à nouveau, de naître à nouveau. Mais il y a aussi un sens culturel qui renvoie au passé, un retour dans le temps dans ces mots. Quand ils sont écrits d'ailleurs avec une majuscule, on les appelle des chrononymes, ça c'est pour les mots compliqués Guillaume. Et ils font référence à un événement ou à une période historique, le Moyen-Âge pour Reconquête et le XVIe siècle pour Renaissance. Ces re veulent créer une rupture avec un passé proche pour convoquer un autre passé plus ancien qui a l'avantage qu'on peut plus facilement le fantasmer et le lier à un renouveau. Ça fait la reconquête de la Renaissance, de la refrance et on peut continuer. Il y a un autre mot politique qui utilise le re, lequel ?
Remontada,
j'y ai pensé aussi.
Révolution.
Oui, hein. Davis, ouais. C'est un re intensif pour le coup, pour indiquer une évolution complète, l'achèvement d'un cycle, pour mieux penser l'avenir. Un mot peut-être à réutiliser et qu'en tout cas nous réentendons grâce à Judith Davis.
Merci Lélia Véron. Enfin, je vous remercie. Ça veut dire que je vous remercie beaucoup.
Évidemment, tout à fait.
Lélia, qu'on retrouve sur Twitter aussi. Vous échangez beaucoup avec nos auditeurs.
Donald Trump.
Ouais, effectivement, on peut vous réécouter, vous partager aussi. Merci beaucoup, Lélia Véron.
Merci, Charline.
J'allais entamer la cinquième manche avec ma bitch quand Marcus apparaisse dans ma TV, ce qui signifie que l'heure est grave. Magnifique stand, bébé, tiens les draps chauds, je reviens, on va à la plage. J'ai mis mon masque, ma casquette et ma cape. Sur ma Desperado moto, quelle chance, je capte. C'est Mars, v'là le message. Le rap français s'est fait kidnapper par des mauvaises chansons. Un euro, personne ne paye la rançon. On cherche un héros prévenu. Ce coup-là, y'a pas de thune. T'inquiète, j'ai l'habitude. Instru chargé, toujours près d'après toi. Qui appelle-t-on lorsque le monde court à sa perte musicière? BD brodé sur le torse, un être capital ne veut pas dire. Bande d'enfoirés, Mike au poignet. T'ignore qui va gagner, pas de soigne.
C'est la Desperado.
Règle tout hors caméra,
oh,
depuis l'opéra Puccino, opérant.
C'est Black Desperado, on m'appelle Jacques au galop. Black Desperado.
Situation à haute température, rapide, rapide, donc c'est à bon capture. « Quelques jours d'enquête et 10 fois que je passe là. Suspect type, et si j'étais susceptible, j'aurais pensé que m'étaient destinées ces injures misogynes. Quand une rugit crie sale, karatéka black desperado, sonora ta pose, fallait rester sur ta mot. Il me dit que rap français est ligoté derrière la porte, et que si je voulais y aller, fallait passer par son corps. Idiot se met en garde, prononce un jeu de langue, sans que ça va barder, je suis trop suis. J'esquive sa gauche en finesse, en traître, je dégaine un lance-roquette. Ma manova dans les côtes, je l'attrape par le cou, je le montre à ces messieurs me disent, trempe-le dans lui. Quand j'entends, non, pitié, tiens la clé, juste avant ma lame sec, déséquilibré. Rap français, tiens bon, il te reste des rimes à vivre, ne pleure plus, c'est moi, je suis venu te délivrer. C'est le Black Desperado, on m'appelle Jacques Rogallo, Black Desperado, règle tout hors caméra, depuis l'opéra, Puccino, opéra. C'est Black Desperado. Situation à haute température, rapide, rapido, c'est à bon capture.
Le Black Desperado d'Oxmo Puccino sur France Inter, où vous écoutez par Jupi Classe et Judith Davis, comédienne et réalisatrice qu'on aime beaucoup dans son émission, dans notre émission. C'est vrai que c'est un peu comme la vôtre. On a beaucoup d'atomes crochus au point que je vous donne l'émission, Judith. En tout cas, je vous cède le micro pour une Jupi Masterclass de cinéma. Vous partagez un film avec nos auditeurs.
Oui, et c'est super cette occasion que vous m'avez donnée de faire cette chronique parce que ça a grandement amélioré mes relations de travail. Et ça, c'est assez formidable, tout à fait. Il y a 2 semaines, j'étais en répétition avec l'Avantage du Doute, donc le collectif de théâtre dont je fais partie. On préparait la reprise qui a lieu en ce moment au Théâtre de la Bastille de notre tout dernier spectacle, encore plus partout, tout le temps, tous les soirs à 20h. Et je dis à Nadir, mon ami, mon collègue, Nad, tu sais, là, je dois faire une chronique sur un film pour Par Jupiter. Tu ferais sur quel film, toi? Là, j'ai pas d'idée. Et il me dit, ah bah, justement, je vais revoir ce soir, il y a une rétrospective, un de mes films préférés. Alors, je l'ai pas revu, mais c'est un grand souvenir d'adolescence, c'est Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah. Viens avec moi, je sais pas, ça va peut-être t'inspirer. Bon, moi je l'ai pas vu, je l'accompagne. Bon, la lumière s'éteint et là Nadir, tout excité, me donne un petit coup de coude. Tu vas voir, c'est une errance métaphysique grandiose. Errance métaphysique grandiose. Pardon, mais ce n'est pas une errance métaphysique, c'est un championnat international de taille de sgeg. Pendant toute la projection, ça boue dans ma tête, je me dis, attends, c'est pas possible, il n'y a que des mecs. Gun, bottes en cuir, ça fait que boire du whisky au goulot en se faisant des concours de vannes stylées. Leur jeu favori, c'est quand même d'enterrer des poules à mi-corps dans des tas de terre et de les shooter à bout portant à 1m20. Bon, tu sais que le Far West, à la base, c'est pas une classe Montessori, mais enfin là, t'as un bon niveau. Donc t'as les mecs qui sont là à shooter des poulets, t'as 2-3 putes sans dialogue qui gambadent à l'arrière-plan les bras chargés de fleurs. C'est bien connu, quand t'es pute, toujours ton petit bouquet de gaïole. Dans les bras, le sourire aux lèvres, à papillonner autour de James Coburn comme des petites quiches au saumon, la frétillante à l'idée de se faire défoncer par un cow-boy tellement crado que franchement, je pense qu'il a fusionné avec son jean. Mais tu vois ça et tu te dis en tant que femme, mais bien sûr, tu t'identifies quoi. En tant que femme, ton but dans la vie, voilà, bah, c'est de te faire défoncer par un cow-boy hollywoodien à l'hygiène inexistante. Donc c'est QFD, sinon tu le sais, tu faisais pas pute, tu faisais maman. Là, tu consoles et tu fais des gâteaux, mais ah, tu ne niques pas. Mais alors, les mecs qui sont là avec leur nostalgie des grands espaces, du port d'armes freestyle et des nuits à la belle étoile entre couilles, à un moment donné, tu te dis, mais ok les gars, pas de problème, la bonne vieille époque du dortoir entre potes, sans gonzesse castratrice qui te fourgue la baraque, les mômes, le labrador, alors que toi, t'avais rien demandé à te faire chier toute la journée avec son rêve de la Miricorée. Fair enough, mon pote, fair enough, tu sais quoi? Vas-y sous les étoiles avec Chris Christopherson, faire des feux de bois, des soirées nature, il n'y a pas de problème, nous, on peut vraiment faire notre vie de notre côté. Et évidemment, pendant que je me dis ça et que je m'enfonce dans mon siège de colère, j'entends dans ma tête les darons de la Cinémathèque venir m'expliquer la vie. Alors ma petite chatte, comme ça, on n'a absolument rien compris à la portée ontologique de l'œuvre de Peckinpah, en termes crépusculaires, sur le combat d'un homme avec lui-même. Tu sais quoi? Je t'emmerde, franchement, je t'emmerde. Non mais ce film, c'est de la daube, c'est tout. La salle se rallume, je suis au bout du rouleau, complètement crevé par avance par le débat à venir, parce que depuis quelques années, on le sait, c'est toujours la même musique. Toi, t'as de plus en plus de connaissances sur les logiques de domination, tu lis tout le temps et plus rien n'est jamais invisible ou normal comme avant. Alors c'est l'enfer parce que tu peux plus voir un film, lire un bouquin, passer un dîner de la même façon parce que tu as toute cette colère en toi qui a grossi d'un coup comme ça. Et plus t'es en colère, plus tu lis de trucs, plus tu parles longtemps, vite, pour essayer de convaincre, plus tu braques les autres, tes interlocuteurs, et le fossé avec tes amis, souvent hommes, tes collègues, se creusent indéniablement. Je le vois qui se creuse. Je regarde Nadir sur le trottoir, dans le cinéma. Sincèrement, je suis hyper triste de voir le fossé entre nous se creuser un peu plus. Alors je respire, je me concentre pour pas m'énerver. Je suis là, en train de m'auto-feng-shuiser le cerveau. Et pendant que je suis en train de faire ça, Nadir se retourne et me dit « Franchement, c'est pas possible ce film. Il y a que des mecs, guns, bottes en cuir, puis les femmes. Attends, deux, trois putes sans dialogue qui gambadent à l'arrière-plan, c'est pas possible !» Les nuages s'ouvrent, un rayon de soleil. Alléluia. Quand je pense que ça fait trois ans que les trois femmes de l'Avantage du Doute supplient Nadir et Maxence de lire les livres féministes pour écrire notre spectacle et pas que du Pablo Servigne. Alors, à toutes celles qui n'en peuvent plus du cercle infernal, colère, débat stérile, épuisement, je vous conseille un bon pas de Gareth et Billy the Kid pour prendre le relais. Franchement, ça se passe de commentaires.
Judith Davis, merci.
Mais la musique est super.
Ouais. Certes. Et on retrouve tout l'esprit qu'il y a dans votre collectif, l'Avantage du Doute dans ce que vous venez de faire et qu'on aime beaucoup. Au Théâtre de la Bastille jusqu'au 27 mai, encore plus partout tout le temps. Et vous comme ça, Nadir, vous lui ferez un petit clin d'œil, ainsi que Maxence Tual, Mélanie Bestel et Claire Dumas. Et puis, je rappelle qu'on peut toujours voir votre film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Merci beaucoup, Judith Davis.
Merci. Bah moi, ça m'a bien donné envie de le voir.
Un petit dessin défi.
C'est
allez.
Pour rire, Juliette, c'était pour qu'on prenne le contre-pied. Faites un dessin.
Non, parce que non, j'ai plus le temps.
C'est pour pas ça, grave. J'ai mis une blague un peu nulle.
Oui, mais c'est pas grave.
Je vais faire un dessin quand même.
Ouais, voilà. De votre allez, je vous dis à demain. Merci à toutes. À toutes et à tous, nous recevrons la romancière et scénariste Faïza Gwen pour une série qui raconte l'histoire de Malik Houssekine. Il sera donc question de violence policière et vous nous connaissez. C'est un thème qu'on scrute de près.
Ils se sont mis dans le crâne cette curieuse idée que les policiers, c'est les méchants.
À demain.